Pour les avertis parmi vous et les grands lecteurs de la Bible, il ne vous aura pas échappé que ce texte bien connu de l'évangile de Luc n'est pas le texte proposé dans la liste des lectures quotidiennes écuméniques. Mais j'ai choisi de revisiter cette histoire suite à notre première séance de catéchisme il y a 3 semaines. J'accompagne les dernières années, ces jeunes qui terminent donc leur cycle de 11 ans d'enseignement, pour ceux qui ont démarré au jardin biblique à 4 ans. J'ai l'habitude de démarrer l'année en leur demandant en un mot, une phrase, un texte biblique, ce que chacun a retenu de toutes ces années. Alors après les traditionnels, les copains, les cultes trop longs, les chips, les nuits blanches au temple, nous pouvons aborder des thèmes un peu plus spirituels. Et dans ce groupe, plusieurs ont retenu cette histoire biblique du fils prodigue, très mal nommé d'ailleurs, nous y reviendrons. Et la raison de leur choix ne se porte pas sur l'amour inconditionnel du père, mais sur la révolte du fils aîné et la grande injustice qu'ils en ressentent. L'histoire débute donc par le père, qui ici représente la figure de Dieu. Le fils cadet demande sa part d'héritage, quitte sa famille et dépense tout son argent. Puis le regrette et revient à la maison où il est fêté grandement. Le fils aîné, lui, travaille sagement à la maison du père. Et il est irrité par la fête donnée au retour de l'enfant terrible. Lui pour qui jamais aucun repas n'a été préparé. De quel fils vous sentez-vous le plus proche ? Eh bien, dans le groupe des jeunes du caté, c'est du fils aîné, dont il se sentait solidaire et révolté à ses côtés. C'est vrai, il nous arrive comme le fils aîné d'obéir en toutes circonstances, suivant sagement la voie toute tracée. Mais comme lui, il nous arrive aussi de nous accorder le droit de juger, de jalouser ou encore de rejeter ce qui nous agace, qui ne mérite pas autant que nous. Comme le fils cadet, il nous arrive de ne pas respecter l'autorité, d'envoyer tout balader, voulant vivre par nous-mêmes pour notre plaisir. Mais comme lui, il nous arrive à tous aussi de savoir reconnaître que nous nous sommes trompés et de le regretter. D'un côté, le fils aîné, sage, discipliné, mais intransigeant, et de l'autre, le fils cadet, désobéissant, têtu, mais capable de reconnaître ses torts. Nous pouvons chacun nous identifier à l'un ou l'autre selon les moments. Et dans cette histoire, nous reconnaissons aussi les relations dans la fratrie. Moi, l'enfant sage, et lui, l'enfant terrible. Ou bien, moi qui aime bien tester les limites, et lui, toujours obéissant comme un petit ange. Et cette jalousie de ces rapports et les questionnements qu'ils soulèvent, nous les vivons aussi souvent dans nos familles, même adultes. C'est également sur ce point que les enfants se sont reconnus dans cette histoire. Toutefois, la lumière de cette histoire n'est pas de pointer un code de bonne conduite ou de juste morale, mais elle annonce d'abord l'amour immense et gratuit du Père pour chacun. Le Père accueille à bras ouverts son fils pécheur, mais il dit aussi au fils aîné qu'il l'aime et qu'il n'a pas cessé de l'aimer. Notre Dieu est d'un amour si grand qu'il aime le fidèle, mais aussi celui qui s'éloigne puis se retourne en lui-même, dit le texte en grec. Il se retourne en lui-même, c'est-à-dire il réfléchit, il fait le point, il cherche en lui le sens profond de sa vie et choisit le demi-tour. Nous sommes tous les filles et les fils de Dieu, nous qui sommes à ses côtés et nous aussi qui nous sommes éloignés, mais qui aimerions le retrouver. Dieu nous a créés libres et ne nous empêche pas de partir. Notre Père nous donne son amour, mais avec, il nous donne la liberté. Celle de vivre sous son regard ou loin de lui, celle d'aimer à notre tour ou de le refuser. C'est à nous de décider en toute liberté. Sa porte est ouverte, mais c'est à nous de la pousser. Il arrive que des fils et des filles bien-aimés de Dieu reçoivent ce trésor appelé la liberté et le gaspillent. Parfois, nous-mêmes sommes incapables de vivre cette relation de liberté avec notre Dieu créateur. Et nous le mettons de côté, voulant par nous-mêmes nous prouver que nous sommes quelqu'un. Au retour du Fils, le Père réclame des sandales, une tunique et une bague. À l'époque de Jésus, les esclaves allaient pieds nus, mais les fils portaient des sandales. Les esclaves portaient des haillons, mais les fils des tuniques. Et la bague était un sceau, un symbole de l'autorité du Père. Pour le Père, le Fils est toujours resté un fils, révolté, certes, mais jamais un esclave. Et il le dit avec ces mots, « Il était mort et maintenant il est en vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et il y eut une grande fête. Quant au fils aîné, il se dit lui-même devenu esclave. Toutes ces années, j'ai travaillé comme un esclave pour toi. Par des histoires de vie très différentes, les deux frères se retrouvent en esclavage. L'un est allé dans un pays lointain, il a dépensé son argent, il a dû nourrir les cochons en devenant esclave. Mais l'autre, sans partir, est resté à domicile, s'est enfermé dans un pays intérieur, sombre et triste. Il nous arrive parfois de vouloir gagner l'amour du Père. Nous nous obligeons à travailler comme des esclaves et transformons la maison du Père, notre maison, en un sombre et triste pays. Parfois, nous sommes devenus trop usés en Église. Tellement sages, nous avons chanté tellement de cantiques, écouté tellement de prédications, qu'il nous est difficile de reconnaître encore la splendeur et l'incroyable étonnement de la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui ne puisse revenir chez lui. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui soit parti trop loin ou resté sur place et devenu esclave qui ne puisse rester fils et fille de Dieu. Il n'y a pas d'esclavage si profond, il n'y a pas d'actes si odieux qui peuvent empêcher Dieu d'accueillir son enfant. Apprenant la colère du fils aîné, le père sort de la maison et va vers lui pour le prier de rentrer chez lui, comme il l'avait fait avec le plus jeune. « Fils, lui dit-il, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Nous ne savons pas si le frère aîné a pu dépasser son esclavage et s'est rendu à la fête. L'histoire ne le dit pas parce que, comme très souvent, elle est incomplète. C'est à nous de la terminer. C'est à nous de choisir l'amour de Dieu pour nos vies. C'est à nous de décider de laisser le Christ briser nos chaînes pour nous rendre à la fête. Alors oublions le titre habituel de cette parabole et gardons les bonnes nouvelles de cette histoire pour nous ce matin que nous appelons la parabole du Père et des deux fils. En Jésus-Christ, Dieu m'appelle à sortir de tout esclavage et à vivre libre. dans sa maison. À chacun, ensuite, de décider de la fin de l'histoire. La porte est ouverte, c'est à nous de la pousser. Amen.